Et ça me fait plaisir de parler avec Stéphanie Robillard-Sarganis, co-animatrice du balado Jouer dans Garnotte. Bonjour, Madame Robillard-Sarganis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de vous parler. Je vous ai vu sur YouTube et je vous ai suivi aussi sur d'autres réseaux. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre famille, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, Stéphanie.
Moi, je suis une maman, j'ai 35 ans, je suis aussi éducatrice spécialisée là, depuis plus de 12 ans déjà. J'ai deux enfants, j'ai une grande fille, Margot, de 8 ans, et j'ai un petit garçon, Romy, de 5 ans. Et on habite la banlieue nord de Montréal, et voilà.
Et Stéphanie, je peux vous appeler Stéphanie? Par votre
Exactement.
Prénom? OK. Vous avez une co-animatrice. Vous faites ça à deux, ce balado-là. Elle s'appelle Véronique. Oui. Qui est cette Véronique?
Véronique, c'est une amie, en fait. C'est une amie virtuelle, là, parce qu'on s'entend qu'en 2021, bon nombre de nos amitiés là, sont virtuelles.
Oui.
On écrivait pour un blog qu'on avait en commun là, il y a quelques années. Et on est resté en contact. Et voilà, Véronique, c'est une maman d'un petit garçon là, qui a quelques diagnostics, dont un trouble du spectre de l'autisme et une trisomie 21. Et on s'est comme beaucoup parlé parce que moi, ma grande a eu un diagnostic là, de TSA, là, de trouble du spectre de l'autisme, en mai dernier,
okay.
Après plusieurs années d'attente. Donc,
ah ouais.
On s'est comme retrouvés là, justement avec ce diagnostic en commun. Et on échangeait régulièrement. Puis moi, j'ai lancé l'idée justement de partir un podcast là, parce que je me disais avec la prévalence justement des diagnostics au Québec, on n'est pas les seules mamans à des fois trouver ça difficile au quotidien. Donc, on s'est retrouvés... On a eu le temps d'enregistrer quelques épisodes ensemble, puis après ça, Véronique, bon, a eu quelques petits pépins là, au niveau de sa vie personnelle, donc elle a décidé de prendre une petite pause, puis voilà, on relance le podcast officiellement après les fêtes.
D'accord. Et jouer dans Garnotte, pourquoi ce titre?
Ben moi, ça m'est venu vraiment spontanément là, dans un premier temps parce que mes enfants ramassent toujours des roches l'été, j'en retrouve partout. Puis je trouvais que c'était quand même une métaphore intéressante dans le sens où on voit souvent là, les jeunes familles jouer dans le parc, c'est beau. Ben moi, mes enfants souvent préfèrent jouer dans Garnotte, puis c'est un peu notre petit chaos quotidien là, que je trouvais.
OK, il n'y a rien de drôle là-dedans, là. C'est plus négatif que positif.
Ben oui. En fait, c'est un peu des deux, tu sais, parce que moi, mes enfants, ils adorent jouer dans Garnotte, mais des fois, comme parents,
ça peut être inquiétant.
Ça semble sain, c'est ça.
Oui. Et à qui s'adresse le balado, Stéphanie?
Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Moi, j'étais un peu, justement, là, en étant très présente sur les réseaux sociaux, j'essaie de me distancer de tout ce qui est très trop léché, trop parfait, parce que moi, ça vient m'angoisser dans mon quotidien qu'il l'est un peu moins, tu sais, d'avoir justement des enfants qui peuvent faire des grosses crises. Nous, ça a été très long avant d'avoir le diagnostic pour ma grande. Donc, ça rejoint les familles qui ont envie de se retrouver puis qui, eux aussi, ont des enfants qui présentent des petits défis, là.
Oui. Et jusqu'à maintenant, vous avez enregistré combien d'épisodes? Trois, si je ne me trompe pas?
On a trois épisodes. Oui, trois épisodes.
OK. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de thèmes abordés, d'invités aussi qui font partie de vos balados, vos épisodes?
Dans le fond, là, les prochains épisodes vont être enregistrés en collaboration avec Projet Spécial, qui est une entreprise menée par Ariane Dutta-Cassonguet et Daphné Gagnon. Qui, elle, justement, Daphné est maman d'un grand là, garçon, Thomas, qui a un trouble du spectre de l'autisme aussi. Donc, que vous l'avez vu aussi dans un de nos trois épisodes, là, tourné il y a quelques mois. Donc, on a aussi Marie-Michelle, qui a une grande fille, qui a un portrait similaire à celui de ma fille, où on parle justement de l'autisme au féminin. Je trouvais ça super important d'aborder cette thématique-là, parce qu'on sait que c'est plus long à diagnostiquer. Les jeunes filles ont tendance à modeler plus rapidement, donc les symptômes sont un petit peu moins apparents, là, les manifestations. Donc, je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là aussi. Là. On voulait faire un épisode sur comment gérer le temps des fêtes quand on a un enfant qui a certaines particularités, mais là, on a été un peu prise de court par les derniers jours, parce qu'il n'y aura probablement pas de, pas de party de fête. Donc,
non, on va le savoir officiellement ce soir à compter de 18h, mais ouais, on se doute que les parties de fête ne seront pas du tout encouragées. Est-ce que
mais
vous...
ça peut quand même être un soulagement hein, pour des familles qui anticipent là, beaucoup les parties avec des enfants qui ont certains défis, que là, tu dis, OK, bon, mais finalement, on enlève une couche d'anxiété, on se retrouve juste notre petite bulle ensemble, puis on n'a pas à gérer tous les désagréments là, qui viennent avec les grosses festivités.
Oui, bon point de vue. Puis je pense que ça enlève aussi du poids sur les épaules de plusieurs familles qui n'ont pas nécessairement des enfants avec des besoins particuliers. Et dans le balado, vous parlez de la culpabilité des parents qui ont des enfants à besoins particuliers, particulièrement des mères. Est-ce qu'il y a des pères qui vont être invités sur votre émission, un de vos épisodes?
On allait justement... en fait, moi, j'avais demandé à mon mari là, s'il voulait participer pour avoir un autre point de vue, parce que c'est sûr qu'on entend souvent les mamans parler. On ne se cachera pas que la charge mentale est quand même là aussi.
Ouais.
Mais oui, on avait justement dans l'optique là, de faire un épisode en invitant là, des papas pour parler de eux, la réalité là, des pères.
Et Stéphanie Robillard-Sarganis, quel est le plus grand défi auquel vous faites face en tant que mère d'une enfant, vous c'est Margot, d'une enfant à besoin particulier?
Dans un premier temps, là, moi je suis formée, c'est ça mon travail au quotidien.
Oui, ça c'est un plus.
Donc, moi, au travail, je m'occupe d'enfants, là, je suis sur l'équipe de gestion de crise, donc j'interviens auprès d'enfants qui ont des gros besoins. Puis moi, mon plus grand défi, c'est de ne pas être intervenante à la maison, d'arriver à demander de l'aide, d'arriver à aller chercher des ressources, de m'entourer de gens qui font mon travail, mais que moi, ça m'enlève une part aussi, parce que ça, c'est vraiment difficile. Justement, dans le rapport de la neuropsychologue, c'était écrit, là, « Maman doit aussi se protéger là-dedans ».
Ah oui.
Donc, pour moi, c'est mon plus grand défi là, d'arriver un peu à déléguer là, puis à pas tout prendre sur mes épaules. Là. Même si j'ai la formation, même si j'ai les outils, il y a toute la partie émotionnelle là, qu'il faut pas négliger là-dedans. Là.
Est-ce que vous vous sentez soutenue?
Ben c'est très long avant d'avoir des services. Nous, on n'est pas encore en attente. Là, j'ai dû aller chercher des services au privé cet été parce que la rigidité là, de mon enfant faisait en sorte que c'était très difficile la transition, les changements, donc la fin de l'année scolaire, pendant l'été, le camp de jour. Donc, j'ai dû justement aller chercher de l'aide au privé parce que moi, j'y arrivais plus. Mais oui, on est encore en attente, là, puis on nous disait qu'on avait une bonne année là, devant nous avant d'avoir accès à l'hôpital.
Ah oui. Mais pourquoi c'est si long? Est-ce que c'est lié à la pandémie ou c'est comme ça toujours?
Non, c'était long avant. C'était très long avant. C'était long avant. Moi, je le savais parce que je travaille dans ce domaine-là. Moi, je suis dans le milieu scolaire, là, donc moins d'attente, mais là, quand j'ai les deux pieds dedans, on dirait que c'est encore plus frustrant. C'est très frustrant parce que là, on doit puiser dans nos propres ressources. C'est là que viennent justement les épuisements, la fatigue au niveau du couple aussi. Il y a plusieurs ruptures. Là. Moi, ça va là, de ce côté-là, mais autour de moi, c'est ça. C'est très difficile. Là. Ça vient gruger le peu d'énergie qui nous reste.
Oui, puis on sait que c'est important de stimuler l'enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme et l'enfant n'attend pas. Là.
Non, c'est ça. Dans le fond, moi, de mon côté, ma grande fille, on est aussi en attente là, pour un haut potentiel intellectuel, pour de l'anxiété. Donc, c'est comme elle est à l'autre bout du spectre. Mais quand même, tu sais, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place, des routines au niveau de l'autonomie fonctionnelle. Puis ça, ben c'est ça. On essaie de se débrouiller par nous-mêmes en attendant. Mais c'est très, très, très long.
Il y a beaucoup de défis là, quand on est parent.
Ouais.
Et je ne sais pas si vous avez vu la pièce Rose et la machine, la pièce documentaire de Maude Laurendeau.
J'étais chanceuse de la voir.
Ah oui, parce que justement, elle raconte l'histoire de sa vie et aussi en tant que mère d'une petite fille autiste. Et elle se bute aux failles du système de santé, du système éducatif. Je voulais savoir, de votre point de vue, quelle place on devrait donner à la neurodiversité?
Ben là, on ne se cachera pas que je pense que les derniers chiffres, c'était une naissance sur 67 au Québec. des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme.
Ouais.
Donc, c'est sûr que on va devoir investir beaucoup plus au niveau des ressources, au niveau justement des éducateurs spécialisés dans les écoles, tu sais, puis mis à part l'adaptation scolaire au régulier, il y a de plus en plus d'enfants qui sont intégrés au régulier. Moi, ma grande n'est pas en adaptation scolaire, elle est au régulier, mais elle a quand même besoin d'avoir une personne ressource à l'école en cas de... Moi, elle est encore traumatisée suite à un événement là, que l'alarme de feu a sonné à l'école. Un an et demi plus tard, elle m'en parle encore. Donc, ça prend des gens dans les écoles qui sont disponibles pour nos enfants. Puis ça, on n'en a vraiment, vraiment pas assez. Avec toutes les coupures qu'on a eues dans les dernières années, bien, les gens ils ont migré vers d'autres choses, vers d'autres métiers, vers d'autres... Beaucoup, beaucoup sont allés au privé. Donc, dans les écoles, il y a un manque criant, justement, d'aide.
Oui, malheureusement, c'est pas l'idéal pour personne. Alors, votre balado est disponible où et quand?
Spotify.
Oui.
Les trois premiers épisodes sont disponibles sur Spotify. Je vais les relayer aussi là, sur ma page, ma banlieue là, dans le temps des fêtes parce qu'on s'entend que les gens vont avoir un peu de temps dans les prochains jours. Pour écouter sur YouTube aussi. Puis après les fêtes, là, on relance avec une toute nouvelle formule avec Daphné, justement, de projet spécial. Projet spécial aussi, là, c'est super intéressant. C'est des chandails, moi, ma grande, elle a, j'ai besoin d'espace, puis elle trouve ça super le fun de le porter parce qu'elle dit, oh, les gens vont peut-être comprendre finalement que j'ai vraiment besoin d'espace. Il y en a, si je ne parle pas, mais je t'entends. Pour nos petits cocos qui sont non-verbaux. Donc, on va travailler ensemble là, conjointement après les fêtes.
Oui, parce que ça sert aussi à sensibiliser les gens, ce balado-là. Le regard des autres, le jugement par rapport à son enfant à besoin particulier, c'est pas nécessairement jojo à tous les jours.
Non, vraiment pas. Puis on souhaite aussi rejoindre les intervenants dans les différents milieux. Parce que des fois, on oublie que derrière l'enfant, il y a toute une famille, il y a tout un système. Des fois, on prend l'enfant qui est en crise, mais on veut aussi sensibiliser tous ces intervenants-là. Moi, je sais qu'avant d'avoir des enfants, j'avais peut-être pas la même approche que maintenant. Comme intervenante. Donc, c'est un peu pour aller chercher le point de vue de ces parents-là. Puis on aborde aussi des petits moments plus légers, là. Tu sais, c'est pas tout le temps sombre, mais c'est ça. On veut aller chercher les deux côtés de la médaille. Mais oui, on cherche beaucoup à sensibiliser là,
alors, ça
la
s'écoute...
société à notre réalité.
Oui, ça s'écoute très bien. On a l'impression de prendre un café avec des amis. Épisode 1, c'est le jour où l'autisme est venu cogner chez moi. Épisode 2, l'autisme au féminin ou l'art du camouflage. Et épisode 3, cultiver la bienveillance parentale avec Stéphanie Deslauriers. Stéphanie Deslauriers, qui est-elle?
Stéphanie Deslauriers, elle porte plusieurs chapeaux. C'est une autrice exceptionnelle. Vous pouvez trouver ses livres partout. Elle est aussi psychoéducatrice, enseignante à l'université et elle fait aussi du privé. Donc, c'est une très belle ressource qu'on est allé chercher.
Bien, bravo pour ce projet. Et en terminant, Merci. Je vous demandais tantôt votre plus grand défi auquel vous faites face en tant que maman d'une enfant à besoin particulier. Votre plus grand bonheur d'être la mère de Margot.
Ah, ben c'est tellement riche. Margot, elle a une intelligence exceptionnelle. On peut avoir des belles discussions. Tu sais, juste l'autre fois, 3h30 du matin, elle était réveillée. Elle me disait, là, on est la plus courte journée de l'année, mais est-ce qu'on est encore à la même heure? Ça nous force, nous, à aller chercher un peu plus loin, à penser un peu outside the box, là, pardonnez-moi mon anglais, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est très, très, très enrichissant d'être la maman de Margot. J'apprends plein de choses parce qu'elle cherche tout le temps à avoir l'information exacte, donc on se dépasse nous-mêmes.
Stéphanie Robillard-Sarganis, co-animatrice de Jouer dans Garnotte. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Bye-bye.